en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Lors de leur séance du 25 octobre 2010, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques ont pu entendre une communication de M. l'ambassadeur Laurent Stefanini, chef du protocole au ministère des Affaires étrangères et européennes, intitulée « La démocratie et les institutions internationales ». Cette communication entre dans la série de réflexions sur la démocratie, thème choisi pour l'année 2010 par le président Jean Ménard.
Pour qu'il y ait une démocratie, il faut qu'il y ait des citoyens. La démocratie est la forme politique d'une population autonome et civique. Et c'est bien là la difficulté dans l'ordre international. Peu de nos 6,5 milliards de semblables se conçoivent comme des citoyens du monde. La démocratie est partout et nulle part dans la société internationale, très souvent affirmée et au fond assez mal pratiquée. Vous n'en trouverez aucune définition précise dans quelque texte universel fondateur que ce soit. Penchons-nous sur les deux textes fondamentaux que sont les préambules du Pacte de la Société des Nations de 1919 et de la Charte des Nations Unies de 1945. Élaborés tous deux au sortir de guerre au cours desquelles les démocraties du monde d'alors ont failli sombrer et n'ont remporté la victoire qu'avec peine. Car 1918 et 1945, ce sont d'abord, et je dirais même surtout, les victoires de la démocratie sur le totalitarisme, des libertés sur l'arbitraire et la contrainte. Vous trouverez dans ces deux textes des États, des peuples, des nations. Vous y trouverez la justice, le droit, l'égalité, la liberté, mais vous n'y trouverez pas la démocratie, ce qui est à mon sens un peu regrettable compte tenu des combats qui ont permis leur élaboration. Dans le préambule du pacte de 1919, les hautes parties contractantes, c'est-à-dire les États, s'engagent, je cite, « à entretenir au grand jour des relations internationales fondées sur la justice et l'honneur ». À observer rigoureusement les prescriptions du droit international, reconnues désormais comme règles de conduite effective des gouvernements. À faire régner la justice et à respecter scrupuleusement toutes les obligations des traités dans les rapports mutuels des peuples organisés. Fin de citation. Elle ne s'oblige ni à pratiquer la démocratie, ni à la promouvoir. Les peuples des Nations Unies qui se substituent aux hautes parties contractantes, en tête du préambule de la Charte de 1945, sont plus ambitieux. Ils proclament, je cite, « leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations grandes et petites. Ils entendent favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. » Fin de citation. Même si le terme n'est pas utilisé, l'ambition de démocratiser l'ordre international est là. De fait, le fonctionnement démocratique d'un monde doté d'institutions conçues à cette fin a fait, en 1945, un net pas en avant. Où en est-il 65 ans après ? Démocratie et institutions internationales. Mais d'abord, qu'est-ce que la démocratie, vue de Genève, de New York, de l'Addis Abeba de l'Union africaine ou de la Shanghai de l'Exposition universelle. Je n'ai toujours pas trouvé de meilleure définition que celle reprise de Périclès et d'Abraham Lincoln, souvent citée ici au cours des précédents lundis, celle de l'article 2, alinéa 5 de notre Constitution, « Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ». Là est la difficulté. Même si les peuples existent dans l'ordre international et jouissent de droits, à commencer par celui de disposer d'eux-mêmes, ils ne sont pas, en tant que tels, acteurs des institutions internationales prises dans leur sens le plus large, d'organismes disposant d'un statut public ou privé leur permettant d'agir collectivement. Ce sont les États, les organisations internationales, les organisations non gouvernementales, les entreprises, voire les individus qui agissent dans l'ordre international institutionnel aujourd'hui, pas les peuples. Disons que s'il y a une démocratie internationale, elle ne peut être qu'indirecte, ou d'une certaine manière, pour reprendre un terme venu du Saint-Empire romain germanique, médiatisé. Pour structurer mon propos d'aujourd'hui, je souhaiterais développer successivement. D'abord, en quoi les institutions internationales sont peu à peu devenues fruits de la démocratie. Comment, ensuite, Beaucoup d'entre elles s'efforcent d'être des protectrices de la démocratie. Dans un troisième temps, montrer comment et pourquoi nous vivons actuellement une profonde crise de la gouvernance mondiale démocratique. Enfin, esquisser quelques réflexions prospectives sur les moyens de sauver la démocratie dans la société internationale. Les institutions internationales se veulent aujourd'hui démocratiques. Le fait est, et c'est heureux, qu'une ambition démocratique les anime. La mondialisation est une chance pour la démocratie par les échanges qu'elle favorise. C'est à la fois le fonctionnement de la société internationale qui est plus démocratique et chacune de ces institutions internationales qui fonctionne sur un mode plus démocratique. À la brutale confrontation des États-nations qui avait caractérisé le 19e et la première moitié du 20e siècle, s'est substitué un ensemble de mécanismes de coopération et de régulation sans cesse plus démocratiques et égalitaires. Monsieur Planté l'avait souligné il y a 30 ans dans ses principes de diplomatie. Je cite « Ainsi s'élargissent sans cesse les marchés où s'échangent les biens et les services, où se comparent les valeurs, s'y établissent des usages, des prix, des engagements qui constituent des régulations utiles aux rapports simplement diplomatiques. » Fin de citation. Le pape Jean XXIII l'avait déjà constaté lui aussi pour s'en féliciter dans son encyclique « Pacem in Terris » du 11 avril 1963, je cite. L'humanité, par rapport à un passé récent, présente une organisation sociale et politique profondément transformée. Plus de peuples dominateurs et de peuples dominés. Toutes les nations ont constitué ou constituent des communautés politiques indépendantes. Les hommes de tous pays et continents sont aujourd'hui citoyens d'un État autonome et indépendant. L'organisation internationale respecte la liberté. Ce principe interdit aux nations toute ingérence dans les affaires internes des autres, comme toute action oppressive à leur égard. À chacune, au contraire, de favoriser chez les autres l'épanouissement du sens des responsabilités, d'encourager leurs bonnes initiatives et de les aider à promouvoir elles-mêmes leur développement dans tous les secteurs. De nos jours, le bien commun universel pose des problèmes de dimension mondiale. Un organisme de caractère général, dont l'autorité vaille au plan mondial et qui possède les moyens efficaces pour promouvoir le bien universel, doit être constitué par un accord unanime et non pas imposé par la force. » Fin de citation. Excusez cette citation un peu longue, mais elle me paraît assez intéressante pour illustrer ce qui était, disons, l'état du monde en 1963, tel qu'analysé par une autorité morale comme le pape Jean XXIII. Cette autorité publique de caractère général, c'est bien sûr l'Organisation des Nations Unies. Elle a pour elle son universalité, puisqu'elle regroupe 192 États sur les 195 reconnus comme tels. Elle a pour elle sa légitimité, puisque dans la diversité de ses organes principaux, de ses organes subsidiaires et institutions spécialisées, elle couvre tous les champs de l'activité humaine avec un souci véritablement démocratique que toutes les opinions, tous les systèmes juridiques, tous les systèmes de valeurs même soient représentés et puissent s'exprimer librement. Mais les Nations Unies n'épuisent pas le champ de la coopération internationale. Les organisations régionales comme l'Union africaine et son EPAD ou Nouveau Partenariat pour le Développement en Afrique, la ZEAN pour les États du Sud-Est asiatique, la francophonie qui a tenu ces deux derniers jours son 13e sommet à Montreux et qui fête ses 40 ans, ont une place importante et contribuent aux échanges de vues, à la coopération et donc à la démocratisation de la société internationale. De fait, ces dernières années ont vu se multiplier de nouveaux regroupements régionaux ou nationaux. Je pense à l'APEC, qui regroupe 21 pays d'Asie et du Pacifique, au G20, transformé depuis 2008 en instance de travail des chefs d'État et de gouvernement, ou le G3, Global Governance Group, qui réunit à l'initiative de Singapour une quinzaine de petits pays dynamiques. Le G7, devenu G8 avec l'intégration bienvenue de la Russie, n'est plus aujourd'hui isolé en tant que cadre interétatique de concertation et de coopération informelle entre gouvernants. Enfin et surtout, c'est l'Union européenne qui, en tant qu'institution internationale, a réalisé l'idéal démocratique dont on voit la force universelle depuis 60 ans. Rares sont les organisations internationales qui ont su à la fois être si respectueuses des États qui la composent, tout en ayant permis aux peuples, et plus encore aux citoyens, de faire valoir leurs intérêts et leurs positions. Par son originalité, par ses finalités fédérale, au fond, l'Union européenne est une institution internationale très particulière. Mais outre qu'elle structure le continent le plus riche de notre planète, son fonctionnement démocratique est remarquable. On peut même d'ailleurs se demander aujourd'hui si l'on n'a pas été trop loin avec un système si sophistiqué de poids et de contrepoids, de checks and balances, qui aboutit à ce que les trois grands pôles de pouvoir, Conseil, Commission et Parlement, se neutralisent parfois, ou à tout le moins compliquent considérablement le processus de prise de décision. Retenons en tout cas que la démocratie a fait de nets progrès dans l'ordre international depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la décolonisation et la chute du mur de Berlin. Cette valeur universelle de la démocratie a d'ailleurs été consacrée par deux initiatives qui remontent à la fin des années 1990 et qu'il me paraît important de mentionner, même si elles n'ont pas une grande notoriété ou beaucoup d'écho. C'est celle de l'Union interparlementaire, qui regroupe depuis 1889 les parlements du monde, qui a son siège à Genève, mais qui a adopté à l'unanimité, lors de la session de son Conseil interparlementaire du Caire, et c'est intéressant que ce soit au Caire que ce soit tenu, de septembre 1997, une déclaration universelle sur la démocratie, que je ne vais pas vous citer longuement, mais qui consacre un certain nombre de principes, et dont deux me paraissent intéressants. Le paragraphe 5 du préambule réaffirme que dans tout État, l'autorité des pouvoirs publics ne peut être fondée que sur la volonté du peuple, exprimée à la faveur d'élections sincères, libres et régulières. Et également le paragraphe 5 de la déclaration elle-même, qui affirme que l'État de démocratie garantit que les processus d'accession au pouvoir, d'exercice et d'alternance du pouvoir permettent une libre concurrence politique et émanent d'une participation populaire ouverte, libre et non discriminatoire, exercée en accord avec la règle de droit, tant dans son esprit que dans sa lettre. Fin de citation. Je crois que c'est important qu'il y ait eu cette déclaration en 1997. Par ailleurs, une communauté des démocraties a été créée en juin 2000 à Varsovie à l'initiative des États-Unis. 5 conférences ministérielles se sont tenues depuis lors, la dernière à Lisbonne en juillet 2009. Elle regroupe 120 États membres, et cette communauté des démocraties réaffirme la valeur des textes conventionnels universels existants et nourrit de projets le Fonds des Nations Unies pour la démocratie, créé en 2005, et dont les quelques dizaines de millions de dollars, contribution annuelle de la France est de 1,8 million, sont modestes mais utiles. Reconnaissons toutefois, comme je le disais tout à l'heure, que ces deux processus ont peu d'écho. Donc les institutions internationales aujourd'hui apparaissent comme un fruit de la démocratie, mais elles sont aussi protectrices de la démocratie. En perfectionnant les 4 libertés affirmées dans la Charte de l'Atlantique, liberté d'expression, liberté de religion, liberté de vivre à l'abri du besoin et liberté de vivre à l'abri de la peur, les Nations Unies ont su, après 1945, mettre en place un système protecteur, sans cesse perfectionné depuis. La Charte des Nations Unies elle-même affirme dans son préambule la foi dans les droits fondamentaux de l'homme, comme je l'ai déjà dit, et elle engage tous les États membres, dans son article 1er, paragraphe 3, je cite, « à développer et encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ». Dès l'origine, en 1946, a été créée la Commission des droits de l'homme, sous l'impulsion de René Cassin, comme chacun le sait, entourée de 4 remarquables personnalités. C'est intéressant de constater qu'il y avait Eleanor Roosevelt pour les États-Unis, John Peters Humphrey pour le Canada, Tsang Ping-jung pour la Chine et Charles Habib Malik pour le Liban, dont le travail a débouché sur la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée à Paris au Palais de Chaillot en 1948, lors de la 3e Assemblée générale des Nations Unies. Les droits reconnus dans cette Déclaration universelle ont été développés et surtout rendus juridiquement contraignants dans les décennies suivantes, par 2 pactes contraignants signés en 1966, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ces 3 textes, déclaration et pacte, forment ce que l'on appelle, dans l'ordre international, la charte des droits de l'homme, qui a elle-même été complétée par plusieurs conventions internationales sur la discrimination raciale, sur toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, sur la torture et les autres peines ou traitement cruel, inhumain et dégradant sur les droits de l'enfant, sur les droits des personnes handicapées. Mieux encore, des instances de mise en œuvre de ce corpus juridique veillant à l'application des instruments internationaux ont été établies. ce que je cherche à vous démontrer ici, c'est ce processus, cette action sur 60 ans qui a abouti relativement récemment à la mise en place d'institutions importantes comme le Haut Commissariat aux droits de l'homme, créé en 1993 à l'issue de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme de Vienne et dont Madame Navanethem Pillay, magistrate sud-africaine, est l'actuelle titulaire. Après Mary Robinson, l'Irlande, Sergio Vieira de Mello du Brésil et Louise Arbour du Canada. Doté de 9 bureaux régionaux, de 11 bureaux nationaux, de 11 composantes droits de l'homme dans les missions de paix et de 4 conseillers droits de l'homme, d'un budget annuel de 150 millions de dollars, le Haut Commissariat aux droits de l'homme a un rôle de vigilance important et utile. Le Conseil des droits de l'homme, qui s'est substitué à la Commission des droits de l'homme en 2006, est devenu un organe subsidiaire de l'Assemblée générale des Nations unies, composé de 47 membres élus pour 3 ans, dont la rotation est organisée de telle façon que chaque État ne puisse siéger que pendant 2 mandats consécutifs, tient 3 sessions ordinaires par an d'au moins 10 semaines, et il a mis en place des mécanismes originaux comme l'examen périodique universel, évaluation critique par les pairs de la situation des droits de l'homme dans tous les États des Nations unies, ou les procédures spéciales extra-conventionnelles confiées soit à des groupes de travail, soit à des personnalités, rapporteurs spéciaux ou experts indépendants. La France a été d'ailleurs l'un des premiers pays à se soumettre à l'examen périodique universel en mai 2008. Ce tableau ne serait pas complet si l'on négligeait le rôle protecteur de la justice pénale internationale, qu'il s'agisse des tribunaux pénaux internationaux institués par le Conseil de sécurité en vertu des pouvoirs que lui confère le chapitre 7 de la Charte, ex-Yougoslavie ou Rwanda, ou des juridictions créées par accord entre un État et l'ONU, comme c'est le cas pour le tribunal du Sierra Leone, du Cambodge ou du Liban, après l'assassinat du Premier ministre Rafik Hariri. Et bien sûr, coiffant le tout, la Cour pénale internationale créée par le traité de Rome du 17 juillet 1998. Cet ensemble de juridictions internationales complète heureusement la tâche de la Cour internationale de justice qu'a présidée M. Guillaume. Mais plusieurs de ces institutions demeurent fragiles, à commencer par le Conseil des droits de l'homme, qui peine à sortir des ornières où la Commission des droits de l'homme s'est trouvée enlisée. Il demeure, comme le rappelait la revue Correspondance du ministère des Affaires étrangères dans son numéro spécial consacré au 60e anniversaire de la Déclaration universelle, un assemblage hasardeux à la composition partielle dont la capacité dépend de la combinaison des volontés politiques qui s'y expriment. Saurons-nous empêcher sa domination par des États peu méritants en matière de respect des droits de l'homme ? On y assiste à la fois à une incantation permanente au consensus qui a pour effet d'aplanir le discernement des situations au profit d'une approche exclusivement thématique et à une excessive polarisation nord-sud autour des droits civils et politiques et des situations dans certains pays. Là encore, c'est en Europe que la protection est la mieux assurée et rien n'égale le système conventionnel européen autour de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée par le Conseil de l'Europe en 1950, dont le bras juridictionnel est la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. Rappelons que ce système conventionnel qui couvre l'ensemble du continent européen est introduit en droit communautaire, puisque le préambule de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, je cite, réaffirme les droits qui résultent notamment de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. L'ambition est là, elle a été réalisée, les textes et les mécanismes protecteurs existent. Et pourtant, comment ne pas constater une crise du fonctionnement démocratique et à des fins démocratiques des institutions internationales ? Je vois à cette crise très perceptible depuis une décennie 4 causes principales. La première de ces causes est l'arrivée dans l'ordre international de nouveaux acteurs qui entendent s'exprimer directement, les entreprises et les organisations non gouvernementales principalement, pour ne pas parler de certains organes de presse internationaux de grands groupes. Ces acteurs, ces corps intermédiaires nouveaux et incontrôlés par les États n'obéissent pas à une logique de souveraineté élective et démocratique. Ceci étant, le phénomène n'est pas nouveau et voilà bien une trentaine d'années qu'on le constate et l'analyse. Et puis des mécanismes d'association de ces nouveaux acteurs ont pu être progressivement mis en place. Ainsi, par exemple, pour les entreprises, le Global Compact, le pacte mondial des Nations Unies, que connaît bien Bertrand Collomb, ou le Conseil international des entreprises pour le développement durable, qu'il a présidé. Plus généralement, l'association des entreprises, des ONG, des syndicats, au travail des représentants d'État est maintenant organisée sous l'égide du Conseil économique et social des Nations Unies dans le cadre de ce que l'on appelle les partenariats de type 2, définis et précisés lors du sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg de 2002. Partenariat de type 2, par rapport au partenariat de type 1 uniquement interétatique, partenariat de type 2 associe sur un pied d'égalité les gouvernements, les groupes régionaux, les autorités locales, les ONG, le secteur privé et les institutions internationales elles-mêmes. On peut dire que la société civile, dont le nom et le concept est apparu récemment, a ainsi trouvé une place dans l'ordre international. Mais enfin, il faut bien reconnaître quand même qu'elle ébranle et complique le rôle des représentants des États dans leur synthèse des besoins de leur population. La seconde cause de cette crise plus grave du fonctionnement démocratique des institutions internationales vient de ce que celles-ci ne reflètent plus les rapports de force mondiaux. Plus interdépendant, plus globalisé, le monde d'aujourd'hui est aussi plus hétérogène. Le poids relatif des États européens décline. De grands États-continents, qu'il est convenu d'appeler les pays émergents, apparaissent. Chine, Inde, Brésil, Afrique du Sud. Certains ont des institutions nationales démocratiques, d'autres moins. Comment faire fonctionner démocratiquement un monde dont les institutions datent d'il y a 60 ans, alors que depuis lors, la population mondiale a été multipliée par 3 et n'est plus géographiquement répartie comme auparavant. Deux institutions, à mon sens, sont au cœur de la crise de la représentativité, le Conseil de sécurité des Nations Unies et le Fonds monétaire international. Le président de la République l'a mise en lumière dans son discours à l'Université de Columbia en mars 2010. Je cite « Comment voulez-vous que nous puissions régler dans le cadre de l'ONU les grandes crises, les grandes guerres, les grands conflits ?» Si l'on pense que l'on peut le faire sans l'Afrique, sans les trois quarts de l'Asie, sans l'Amérique latine, sans un seul pays arabe, est-ce que c'est raisonnable? Alors on me dit, oui, mais il y a l'Assemblée générale des Nations Unies, ils en sont tous membres. Il y a 192 pays dans le monde, le G192. Alors on passe d'un système au Conseil de sécurité où l'on veut régler les problèmes sans les deux tiers de l'humanité, à un système où le dernier qui n'est pas content peut bloquer l'accord de tous les autres. Fin de citation. De ce point de vue, l'échec en décembre 2009 de la conférence de Copenhague sur le changement climatique est révélateur et emblématique de la crise des Nations Unies. Arrêtons-nous-y un moment. De quoi s'agissait-il? De compléter et d'approfondir un accord, la Convention cadre de lutte contre les changements climatiques, conclu à Rio de Janeiro en 1992, à l'âge du multilatéralisme triomphant qui a suivi la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide. Cet accord, toujours en vigueur, repose sur un certain équilibre du monde où une vingtaine d'États, disons les pays de l'OCDE, Europe, États-Unis, Canada, Japon, dit de l'annexe 1 dans la Convention, s'engagent d'une part à agir, puisqu'ils représentent 80% du produit intérieur brut mondial et 80% des émissions de gaz à effet de serre, d'autre part, et si l'on peut dire accessoirement, à aider le reste du monde, les pays de l'annexe 2, à limiter leurs émissions. Cet accord a encore pu être complété 5 ans plus tard par des objectifs et des engagements chiffrés à Kyoto en 1997, même si le refus de ratification des États-Unis, première puissance économique et premier émetteur de gaz à effet de serre, pourtant alors sous administration démocrate de tradition multilatéraliste, a affaibli dès l'origine ce protocole. Mais 15 ans plus tard, les rapports de force ont changé et le mécanisme est grippé. Les pays de l'annexe 1, sur lesquels seuls pèsent des contraintes précises, représentent aujourd'hui moins de 50% des émissions, dont 16% pour les membres de l'Union européenne. Et ils ne sont pas parvenus à faire pression sur ce reste du monde, devenu l'essentiel du monde, conduit par le groupe basique, Brésil, Afrique du Sud, Inde, Chine, qui s'est montré intraitable sur 4 principes. Le maintien des principales contraintes sur les pays industrialisés historiques, la protection de leur souveraineté contre toute ingérence extérieure, la responsabilité quasi exclusive des pays de l'OCDE dans le financement international des actions menées par les pays en développement, enfin la méfiance à l'égard de tout marché universel de droits à émettre qui ne différencierait pas assez pays du Nord et pays du Sud. Le résultat est que le texte de négociation d'une centaine de pages, fruit pourtant de 2 ans de travail, traduisait encore trop de divergences, comprenait trop de passages entrecrochés, et que sa mise au net à 192 était inaccessible. La centaine de chefs d'État et de gouvernement présents à Copenhague en décembre 2009, et j'insiste sur ce chiffre, car cela ne s'était jamais vu jusqu'alors de réunir autant de responsables politiques suprêmes de leur pays en un seul lieu, ont dû, dans l'urgence et la précipitation, se rabattre sur une déclaration politique malheureusement très édulcorée et reposant sur le volontariat de chaque État. Troisième cause de cette crise, c'est qu'au-delà des dysfonctionnements des institutions internationales créées au milieu du XXe siècle et perfectionnées depuis, on peut voir une troisième cause dans la contestation en profondeur du modèle occidental, européen et nord-américain. Qui conteste ce modèle ? On pense évidemment d'abord au monde musulman, où une religion révélée inspire de plus en plus le droit, le fonctionnement des sociétés, l'exercice du pouvoir politique, sans faire nécessairement de l'individu citoyen, du respect de son autonomie et de son expression libre, le pivot des mécanismes politiques. Ce n'est cependant pas si nouveau, et il ne faut pas oublier que les rares États du monde musulman non colonisés alors, qui se sont abstenus lors de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, car il y a eu des abstentions, étaient justement les États musulmans. Mais au-delà, depuis quelques années, ce monde se structure avec, par exemple, la création de l'Organisation de la Conférence islamique, dont le siège est en Arabie saoudite, ou bien de l'Organisation arabe musulmane pour la science et la culture. Et à cet égard, le lancement par les premiers ministres espagnols et turcs du dialogue des civilisations, de mon point de vue, n'aide pas, à mon sens, à conforter la valeur universelle du modèle humaniste et démocratique occidental. Mais au-delà de cette affirmation de l'identité et de l'originalité politique du monde islamique, apparaît également dans des zones du monde étrangères à l'islam la remise en cause du fonctionnement démocratique des institutions nationales ou internationales au profit de ce que j'appellerais une nouvelle forme de despotisme éclairé, ou plutôt de technocratisme éclairé, dont la Chine est aujourd'hui le modèle. Le respect des droits politiques des citoyens y disparaît derrière la gestion efficace des problèmes de masse. Il est vrai que ces problèmes sont d'une telle ampleur, l'enchevêtrement des enjeux si difficiles à démêler, l'éducation et la formation de citoyens éclairés si inégales, le poids et la cohérence des États du monde si divers, que le principe « un homme, une voix » est difficile à maintenir debout dans la société internationale, tout comme celui de l'égalité souveraine des États. Enfin, la quatrième cause tient aux limites de la démocratie. Plus sensible encore dans l'ordre international que dans l'ordre interne, mais je sors un peu là des limites de ma communication peut-être et de la séance d'aujourd'hui. Comme l'a écrit Myriam Revaud-Allonne dans son récent ouvrage « Pourquoi nous n'aimons pas la démocratie ?», je cite « On cherche désespérément aujourd'hui les signes d'une invention ou d'une réinvention politique effective ». Tant s'impose l'incapacité de la démocratie contemporaine à répondre aux nouvelles donnes de la réalité. La mondialisation, les développements insaisissables du capitalisme financier, l'insécurité sociale croissante, l'épuisement des modalités traditionnelles de l'action politique, la dilution des idéaux, l'absence de tout réconfort existentiel. Fin de citation. Comment en effet concilier souveraineté des peuples et défense des libertés des individus ? Il y a aujourd'hui tant de peuples qui ont voix au chapitre et tant d'individus à protéger. La démocratie des États contemporains est caractérisée par la fréquence des élections, l'omniprésence du contrôle par la presse, la modification fréquente, voire l'abandon précipité des politiques publiques menées. Ces handicaps frappants dans l'ordre interne sont encore exacerbés dans la société internationale. Comment retrouver le temps de l'action, de la mise en œuvre sereine et complète d'une politique ? Pour autant, ce qui frappe dans la vie internationale d'aujourd'hui, ce sont les occasions de rencontre de nos dirigeants. Mais est-ce parce qu'ils se rencontrent plus qu'ils peuvent agir mieux ? Lundi et mardi dernier se tenait à Deauville un sommet franco-germano-russe, occasion d'utiles échanges entre Mme Merkel, M. Medvedev et M. Sarkozy. Hier et avant-hier, à Montreux, se réunissait le sommet de la francophonie avec une trentaine de chefs d'État et de gouvernement. Jeudi et vendredi prochain, à Bruxelles, ce sera le Conseil européen des 27. Dans quelques jours, le 11 et le 12 novembre à Séoul, le sommet du G20, où la France d'ailleurs prendra la présidence du G20. Les hauts responsables politiques, qu'ils soient démocratiquement élus ou non d'ailleurs, se croisent sans cesse dans le cadre d'institutions toujours différentes et de formats sans cesse modifiés. Les échéances électorales nationales n'étant pas en phase avec cette sorte d'aréopage mondial à géométrie variable, de dirigeants qui s'entendent sans toujours s'écouter, il faut sans cesse reconstruire une confiance et un esprit de coopération particulier. Je prendrai l'exemple du couple franco-allemand. Il a fallu nouer ces liens particuliers entre M. Chirac et M. Schröder, puis Mme Merkel et M. Chirac, maintenant M. Sarkozy et Mme Merkel. Et Dieu sait si cette entente franco-allemande est un des fondements essentiels de l'action de nos deux grandes nations démocratiques dans le monde tel qu'il va. Loin de moi l'idée de minimiser l'importance de cette noria de rencontres, mais j'aimerais réfléchir aux moyens d'en faire un mécanisme d'action politique, démocratique, plus efficace. Alors, face à cette crise que nous ressentons, comment peut-on imaginer une nouvelle gouvernance démocratique dans l'ordre international ? À mon sens, il faut d'abord toujours réaffirmer la valeur de l'homme contre tout ce qui porte atteinte à son intégrité. Comme le président de la République le rappelait dans son discours de Davos en janvier 2010, les citoyens attendent de la démocratie qu'elle les protège. Monsieur Kouchner l'a développé dans son discours de clôture à la conférence des ambassadeurs d'août dernier. Je cite « Un danger nous guette, celui qui plane sur l'universalité des droits. Tous les jours nous entendons cette remise en cause. Au nom du nationalisme, de spécificités culturelles, de particularités ethniques, géographiques ou même de prescriptions religieuses, certains contestent ce que nous avons en partage et mettent en avant des traits distinctifs qui seraient emblématiques de leurs valeurs, de leur vision du monde et de leur représentation de l'homme. Comment peut-on concevoir que des condamnations en justice d'un autre âge, comme la lapidation, respectent mieux la dignité des êtres humains parce qu'elles seraient conformes à des justices transcendantes acceptées par des peuples attachés à leurs croyances ? Fin de citation. La France et ses dirigeants ont à cet égard une responsabilité essentielle de porte-parole. Restons fermes sur nos valeurs et nos principes. Il ne me semble pas que ce combat passe par l'élaboration de nouvelles normes, mais bien par une meilleure application des normes existantes, suffisamment nombreuses et généreuses. Ensuite, il faut conforter les États dans leur rôle. D'autant plus qu'ils sont les garants de l'application sur un territoire donné, au profit d'une population donnée, de l'application de ces normes, justement. C'est l'État d'abord et avant tout qui doit être démocratique. Le ministère des Affaires étrangères et européennes dispose au sein de sa direction de la mondialisation, du développement et des partenariats d'une mission de la gouvernance démocratique. Sa tâche d'assistance est essentielle, en particulier dans les États avec lesquels nous avons une longue tradition de coopération et d'appui, en Afrique notamment. Monsieur de Montbrial disait dans son discours d'ouverture de la première World Policy Conference à Évian en octobre 2008, « On a besoin des États. Les États sont importants tout simplement parce qu'ils représentent, par définition, les critères collectifs. Non seulement on a besoin des États, mais on a besoin de la coopération entre les États. » On en a encore plus besoin aujourd'hui en raison de l'accélération de l'histoire. » Fin de citation. Il faut défendre la personne humaine, il faut soutenir les États, il faut aussi réformer les institutions internationales, à commencer par le Conseil de sécurité et les institutions financières internationales. La tâche sera dure, les résistances des égoïsmes nationaux fortes, surtout en provenance de ces nouvelles grandes puissances que leur poids tout neuf rend nationalistes. La France, qui prendra le 12 novembre pour un an la présidence du G20 et du G8, a dans ce domaine une responsabilité historique, mais Jean-David Lévite saura mieux que moi présenter nos ambitions pour l'année à venir. Disons simplement que nous avons eu ce week-end une belle étape en ce qui concerne la réforme du Fonds monétaire international et nous espérons qu'elle sera consacrée par le prochain sommet de Séoul. Alors, la démocratie est un combat. Elle ne va pas de soi dans le cadre des institutions nationales comme celui des institutions internationales. Elle suppose un esprit civique, une éducation, un certain niveau de prospérité économique aussi. La démocratie, comme l'avait compris Gambetta, repose partout et toujours, en Chine ou en Inde, comme en France, sur une classe moyenne éclairée. Depuis les graves crises internationales du XXe siècle, elle est une référence obligée. Les textes fondateurs sont là. Les mécanismes existent. Elle risque pour autant de devenir une coquille vide si les grandes démocraties occidentales, au premier chef européennes, qui ont inventé et fait vivre la démocratie moderne, ne se mobilisent pas alors que la société internationale est en mutation rapide et que ces transformations, sous les coups de butoir de la croissance démographique et de l'appauvrissement d'une partie du monde, ne vont pas toujours dans le sens de la protection de l'homme et de l'autonomie politique du citoyen. Je vous remercie, Monsieur le Président.
Vous venez d'entendre Monsieur l'ambassadeur Laurent Stefanini, chef du protocole au ministère des Affaires étrangères et européennes, évoquer la démocratie et les institutions internationales selon le thème de l'année 2010, la démocratie choisie par le président Jean Ménard.